4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, émission de février, émission 2, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Bah ouais, ça va, ouais. Et toi?
Bon, ouais, bah oui, ça va, on renoue avec le vivant, c'est parfait quoi.
C'est
on
cool.
On a
hein.
besoin de parler
de ah ouais, c'est clair, de se sentir un petit peu vivant.
Ouais.
Et réfléchir et écouter des penseurs, des gens qui réfléchissent, ça fait aussi se sentir vivant et c'est bizarre.
C'est sûr. Allez, on enchaîne direct avec, je te propose... Aurélien Barreau, à nouveau.
Ouais.
C'est un son qui date de 2018, septembre 2018. C'est juste après, en fait, l'appel des 200 dont il a été à l'initiative, 200 personnalités, pour alerter un peu sur... alerter notamment nos gouvernements sur la façon de faire société, la façon de faire de la politique, et qu'à un moment, il va falloir véritablement qu'on prenne en compte... la dimension de crise écologique dans laquelle on est.
Mmh.
Et toujours, moi je trouve qu'il est extrêmement pertinent, notamment quand il parle de qui sont les gens sérieux. On écoute
hein. Allez.
On a publié il y a quelques jours un appel qui a été bien relayé par le journal Le Monde et par beaucoup d'autres médias, avec 200 personnes qui sont des scientifiques, hein, plusieurs professeurs au Collège de France, membres de l'Académie des sciences, des artistes, des intellectuels, des acteurs. Cet appel ne dit pas grand-chose, parce qu'il est très court, on le voulait percutant, mais il dit quand même quelques petites choses pas totalement négligeables. La première chose que nous avons voulu marteler, et c'est ce que tu as rappelé en introduction, c'est qu'il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire « on est face au gouffre, accélérons ». On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels hein, qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. Une question complètement différente. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est que il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Oui, nous sommes faibles, nous sommes ainsi faits. Si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km/h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas, globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc, nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, Et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple. Ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, je t'interdis de casser ton jouet, bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant. Mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être. Et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, hein, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie. Je cite. Et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. Je cite toujours. On ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Hier, une autre tribune a été publiée dans Libération, signée par de très nombreux scientifiques. Je crois qu'il faut envahir l'espace médiatique. Médiatique et au-delà, hein, il faut le faire, évidemment. Alors l'enjeu, et je conclue sur ces mots, j'aime assez qu'il soit placé sous l'égide d'un nouveau contrat social avec le vivant. La figure tutélaire de Rousseau est assez bienvenue, parce que vous savez qu'il y a deux contrats sociaux chez Rousseau. Il y a celui par lequel, en quelque sorte, le peuple s'aliène dans l'autorité du souverain, et il y a celui par lequel le peuple se fonde en tant que tel. Et c'est ce qu'évoquait Benjamin en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants.
Alors
Bon, je trouve toujours intéressant, il y a des trucs sur lesquels je suis tout à fait d'accord.
C'est-à-dire
Tout ce qu'il dit sur les libertés.
Ouais.
Notamment l'exemple qu'il donne de l'enfant à qui on interdit de casser son jouet.
Toi, tu veux avoir la possibilité de casser ton jouet, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. étant conscient des conséquences, d'accord. Mais je vais avoir possibilité de casser mon jouet. Et après, c'est mon choix de le casser ou pas. Mais je sais que j'en aurai plus après.
Tu vois ? Non, mais si tu le fais en toute conscience, why not, quoi ? Ouais. Après, je sais pas si c'est la bonne,
c'est la bonne image. Ouais, je suis d'accord.
Par rapport à ce qu'il a voulu dire.
Ouais.
Moi, je reste convaincu que. Alors. À un moment, l'idée, c'est de faire des choix en toute connaissance de cause, quoi.
Oui, voilà, c'est
mais
ça.
Si il faut continuer à vivre comme la plupart des gens, des Occidentaux en tous les cas, vivent aujourd'hui, dans un rapport au monde qui est un rapport de consommateur des biens matières premières ou produits finis là très clairement enfin on a des choses à comprendre quoi, on peut pas continuer à épuiser les ressources terrestres
Je suis d'accord oui. Donc, oui
c'est
je
plus
suis d'accord.
Moi j'interprète sa métaphore plus dans ce sens là et que du coup si on doit en passer par des mesures plus coercitives moi je suis prêt à jouer le jeu hein. D'ailleurs, quelque part, dans la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, c'est plus ou moins ce qu'on fait. On le fait pour des raisons qu'on nous dit vitales, donc ça veut dire qu'on est prêt à le faire aussi. Là, pour la plupart des gens, ce risque de tomber malade, voire de mourir, fait qu'on est prêt à accepter des mesures coercitives. On n'a pas forcément conscience, pour la plupart d'entre nous, qu'aujourd'hui, la crise écologique qu'on traverse, ça veut dire que notre vie est possiblement à l'extinction dans 25, 30 ou 50 ans, quoi.
Oui, bien sûr. Voire même moins.
Et c'est là où, en fait, des gens comme René Barrot sont intéressants parce qu'ils ils pointent l'urgence, quand même, de la nécessité de nos changements de façon de vivre, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je ne pense pas que la coercition soit la solution. Vraiment. Jamais. Okay. Quel que soit le but. Jamais. En tout cas, pas aussi fort que ce qu'on nous fait vivre actuellement à cause du virus.
Tu vois ? Oui, mais je peux comprendre ça parce qu'en fait, c'est des choses qu'on subit en plus. On les subit sans forcément très bien... comprendre et voir ce à quoi ça peut nous mener. Et puis il y a peut-être effectivement des mesures coercitives qui sont pas les bonnes. Enfin, on pourrait rentrer dans un débat.
Oui, bien sûr. Mais tu vois qu'on a il y a mesures coercitives et mesures coercitives.
Oui, tout à fait.
Quand on dit il faut pas tuer les gens, ça c'est une mesure coercitive. Oui, t'as pas le choix. C'est comme ça. C'est plutôt une bonne chose. D'accord. Après, je trouve que ce qui peut être mis en place comme mesure coercitive, eh ben c'est pas forcément de bonnes choses, tu vois, quel que soit le but, même si c'est pour prendre soin de la planète, même si c'est pour prendre soin du vivant, etc. Il y a des limites à toute coercition.
Oui, il y a des limites, on est d'accord.
Et donc, dire que forcément imposer des choses dures, etc., c'est la solution, moi je suis pas d'accord. Et en plus, l'autre chose sur laquelle j'étais pas d'accord, c'est quand il dit il va falloir renoncer à un peu de confort. Moi, je pense pas qu'il faille renoncer à un peu de confort.
Mais tout dépend ce qu'on met derrière confort, hein. Parce que si c'est effectivement rouler en Porsche avoir sa piscine, tu vois.
Ça, on peut renoncer.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est pas vraiment du confort, c'est du superflu.
Oui, mais alors, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, le confort, c'est ça, quoi. Mmh, donc, c'est la notion de confort, elle est aussi à débattre et à redéfinir. Ok. On peut passer éventuellement au son suivant.
Au son suivant, bien sûr. Le son suivant, en fait, il est intéressant parce que ce que tous ces gens nous disent dans l'autre émission et même ce premier extrait-là, c'est que, en fait, on a un problème, c'est avec la nature. Mmh. Hein, et que, voilà, Baptiste Morisot nous en a déjà parlé la dernière fois. Et là, je voulais faire écouter un son de Philippe Descola, qui est professeur au Collège de France, anthropologue, il était l'élève de Lévi-Strauss, etc. Mmh. Et qui nous parle justement de ce concept de nature et de culture qu'on connaît très bien en Occident.
Ok. Hein,
il va nous expliquer deux, trois petites choses.
Impec, c'est parti.
Alors ma chaire s'appelle Anthropologie de la nature. Et c'est une contradiction dans les termes, un oxymore, comme on dit en termes savants, puisque en principe, il n'y a pas d'humain dans la nature. Mais j'ai voulu appeler cette chaire ainsi pour souligner le fait que le concept de nature est une invention de l'Occident, et que dans les sociétés qui m'intéressent au premier chef, celles dans lesquelles j'ai travaillé comme ethnographe, la nature n'est pas présente, elle n'existe pas. J'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai partagé la vie d'Amérindiens en Amazonie. J'ai étudié les jardins, j'ai étudié les techniques de chasse, j'ai étudié les classifications des plantes et des animaux, etc. Mais j'ai en fait étudié l'ensemble de la société. Au fil du temps, je me suis aperçu sur le terrain que les rapports que les Achua, puisque c'est leur nom, entretenaient avec les plantes et les animaux n'étaient pas du tout des rapports d'utilisation, utilitaristes, mais étaient au contraire des rapports de personne à personne, puisqu'ils dotaient la plupart des plantes et des animaux de leur environnement d'une intériorité, d'une âme, d'une subjectivité. Ils leur prêtaient toutes sortes de dispositions sociales. À cela s'ajoute le fait que, au fond, la forêt amazonienne avait été profondément transformée au fil du temps par les techniques, en particulier les techniques d'horticulture sur brûlis. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la forêt qu'on a tendance en Occident à considérer, la forêt tropicale, à considérer comme le plus grand espace vierge encore accessible de la planète, était en fait considéré par les Amérindiens du fait des transformations dont ils avaient conscience qu'ils lui avaient fait subir, plutôt comme un environnement construit.
Bon, c'est intéressant, je trouve, de parler de la place de l'homme, en fait, sur cette planète, et de montrer qu'en fait, la nature, ça n'existe pas. C'est juste un concept que l'homme occidental a inventé, hein, et que, en fait, l'homme, l'être humain, plutôt, est une partie de la nature.
D'un tout, ouais. Avec des interdépendances qu'on a, nous particulièrement en Occident, totalement évacuées et oubliées. Ça ne fait plus partie de notre champ de pensée. C'est en train de revenir peut-être, hein, on le voit, et c'est là où ne plus se penser en tant qu'homme occidental comme le centre du monde, la civilisation plus ou moins la plus évoluée,
la civilisation
là effectivement faut qu'on sorte de ça,
de tout ça, oui. Il faut quand même penser que voilà, on se considère quand même comme le centre de l'univers. On a longtemps placé la Terre, nous, donc, au centre du monde, au centre de l'univers.
Ouais.
Faut pas oublier non plus qu'on est allé apporter la civilisation au peuple amérindien, entre autres, au peuple africain, au peuple asiatique.
Qu'on parle trop souvent de notre histoire comme...
L'histoire universelle.
Oui, avec 2000 ans d'histoire, alors que l'homme est sur Terre quand même depuis un petit peu plus de 2000 ans. Quoi. Toutes ces choses-là, c'est hallucinant avec un peu de recul.
C'est quand même incroyable. Moi, ça m'a toujours effrayé de penser qu'on est allé apporter la civilisation à des peuples qui étaient vachement plus avancés au niveau de la civilisation que nous.
En tous les cas, sur cette pensée... Là, de la place de l'homme dans l'univers, effectivement...
Elle est incroyable.
Oui.
Et en fait, en changeant juste ce paradigme-là, on change plein de choses, parce que du coup, on ne pense plus les choses autrement. Si on pense que l'arbre qui est en face de moi, il fait partie du même tout que moi, il faut que j'en prenne soin, parce que comme ça, je prends soin de moi. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il dit d'Escola, là, c'est... les espaces qu'on croit des espaces vierges, primitifs, qui sont là depuis le début et tout ça, en fait, ne le sont pas.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai lu un article récemment où il disait qu'en fait, ils avaient redécouvert, avec ce que fait Bolsonaro, là, où il détruit complètement la forêt amazonienne, en fait, on découvre des vestiges de civilisation. Il y a des archéologues de plus en plus qui vont en Amazonie, parce qu'en fait, on découvre que l'Amazonie, elle était habitée avant.
Ouais. C'est passionnant. Allez, petite pause musicale et on revient pour découvrir d'autres penseurs, c'est ça?
On va revenir à Baptiste Morisot.
Baptiste, ok, ouais. Ça marche.
Et quoi c'est ça?
Ça c'est Rye et ça s'appelle Black Rain.
Oh, les pluies noires.
Baptiste Morisot.
Yes, notre cher Baptiste Morisot.
Ok.
Et en fait, on va continuer à parler de la place de l'homme dans la planète, mm-hmm. D'accord? Et il en parle assez bien, notamment dans ce premier son, il nous parle d'effondrement, de mégalomanie, etc.
Ok, allez, c'est parti.
Il y a encore une mégalomanie dans le fait de croire que nous sommes capables aujourd'hui de détruire ou d'effondrer le vivant. L'effondrement, ou bien c'est un mot vague à ce moment-là, appliqué au vivant, c'est gratuitement millénariste, ou alors on l'entend au sens littéral, c'est-à-dire suivant l'image d'un building à 250 étages dont les bases cèdent de telle manière qu'il s'effondre, et ça, ce n'est absolument pas pertinent pour décrire la crise de la biodiversité actuelle. La biosphère n'est pas mise en danger par l'action humaine. Il y a encore une mégalomanie dans le fait de croire que nous sommes capables aujourd'hui de détruire ou d'effondrer le vivant. Par contre, il faut être clair, ce que nous détruisons, c'est des relations entre espèces qui sont constitutives de notre rapport au monde, c'est des pans entiers de la diversité, et donc ça ne veut pas dire que c'est moins grave pour autant, mais il faut être précis quant au constat, parce qu'on ne peut pas activer des leviers opératoires si on se laisse aller à des envolées lyriques et prophétiques sur la question. L'idée de protection, elle implique nécessairement que celui qui est protégé est infériorisé, qu'il est plus faible, plus petit, plus vulnérable. Il y a une infériorisation dans l'idée de protection. Or, ce qui est fascinant, c'est que le vivant en question ne peut pas être infériorisé. Les dynamiques du vivant, c'est littéralement ce qui nous a fait, c'est le monde qui nous a façonné dans la totalité de nos puissances corporelles et mentales et affectives et émotionnelles. C'est le monde qui nous nourrit chaque jour, c'est le monde qui nous donne de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Donc, il y a un paradoxe fondateur à prétendre protéger comme une petite chose vulnérable un monde vivant qui est ni plus ni moins que le monde qui nous a fait, qui nous maintient en vie à chaque instant et qui nous permet de respirer et de continuer jusqu'à demain. Et donc, en ce sens-là, la protection, c'est un motif qui recèle un imaginaire problématique. C'est pour ça que l'effondrement, qui est devenu un mot utilisé à toutes les sauces, lorsqu'il est appliqué au vivant, n'a aucune pertinence factuelle. Le vivant n'est pas en train de s'effondrer. On s'est à certains égards trompé sur l'idée de protection de la nature. C'était pas de la protection, c'était pas de la nature, c'est de la défense du vivant. Et défendre du vivant, c'est défendre un tissage dont nous faisons partie, parce que nous sommes des vivants au même titre que les autres.
Alors, non, mais alors ce qui est intéressant, c'est, mais c'est, ça, tu vois, ça produit des prises de conscience,
ouais.
Et c'est toujours bien. C'est vrai que la notion de protection, je ne l'avais jamais pensée comme ça, mais effectivement, quand on l'écoute, elle induit une position qui est dans la logique de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire d'une séparation entre la nature...
L'homme et la nature, et l'être
et
humain.
Oui, ouais. Tout à fait. Et oui, en ça, c'est passionnant, parce que ça oblige forcément à, du coup, se positionner différemment, et ça ouvre une sorte de perspective un peu vertigineuse, quoi. Qu'est-ce qu'on fait et comment on interagit avec les autres espèces animales, avec le vivant en général,
avec les autres espèces du vivant.
Oui, voilà.
Les autres espèces du vivant, tout simplement.
Ouais.
Mais tu sais, par des choses toutes simples, j'ai fait un voyage en Thaïlande, je suis allé dans les temples bouddhistes qui étaient absolument extraordinaires, et au retour, en fait, je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme. Et il y a, en lisant plein de choses, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que, en fait, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer. Voilà. Mm-hmm. Alors, on l'entend plein de fois, on l'a entendu dans les 10 commandements et tout ça, mais cette fois-ci, ça m'a sauté aux yeux. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, ça m'a sauté aux yeux. Et c'est vrai que tous les gens que je connais qui sont bouddhistes, en fait, ils ne tuent pas. Par exemple, quand tu vois une araignée chez toi, le premier réflexe, c'est chouac, on l'écrase. Alors que les amis et moi, on prend une balayette, on la met dans la pelle, l'araignée, et puis on la repose dehors.
Ok. Tu la balances pas de ton balcon, hein.
Non, on la met dehors pour qu'elle puisse faire sa vie dehors, mais pas dans ma maison, parce que me dérange.
Ouais.
Tu vois, c'est plein de choses comme ça. C'est aussi, ça peut être aussi éviter d'utiliser des nettoyants bactéricides.
Ouais.
Ça peut être ça aussi. Parce que les bactéries, il faut qu'on vive avec déjà. Enfin, on verra dans d'autres émissions qu'elles sont importantes. Mais voilà, il faut vivre avec les bactéries. On n'a pas besoin de les tuer.
Alors, sans doute, mais du coup, dans tous les gestes, dans de nombreux gestes quotidiens, ça va nous obliger à agir effectivement différemment.
Ne serait-ce que, tu vois, quand on fait une route, il y a un arbre au milieu, on coupe l'arbre. Et pourquoi on ne dévie pas un petit peu la route pour que l'arbre puisse rester C'est plein de choses.
Non, mais bien sûr.
C'est plein de choses. Et en plus, quand on commence à s'intéresser à ça, on voit que l'arbre, ça nous paraît statique, etc. Mais en fait, c'est impressionnant, un arbre.
Oui, mais oui, c'est impressionnant et c'est vivant.
Et c'est vivant, mais c'est impressionnant la communication qu'il peut y avoir. Oui. Comment ça communique, c'est eux qui ont inventé le web. Voilà. Enfin, c'est...
L'arbre a inventé le web. Enfin, en tous les cas.
En tout cas, ils en disposent. D'un web arbre depuis beaucoup plus longtemps que nous.
Tout à fait. Mais bon, en plus, possiblement, les penseurs du web ont pu faire des analogies. Et alors,
je ne sais pas, mais en tout cas, c'est juste pour dire que ça nous replace à une autre place.
Oui, ouais.
C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à être un peu humble.
Ça, c'est sûr. Ok.
Et d'ailleurs, ce qui peut nous permettre d'être un peu humble et de retrouver une autre place, c'est de savoir qu'en fait, avec la bactérie, avec l'arbre et tout ça, on a un ancêtre commun. Et c'est encore Baptiste Morisot qui va nous parler de ça.
Allez, on écoute.
Tournez les yeux autour de vous. Le premier vivant que vous voyez, un arbre, un corbeau, un brin d'herbe, nous pouvons remonter à lui par une séquence continue de parents et d'enfants. Sans dissolution de la continuité. C'est littéralement un parent. Et simultanément, c'est un alien. Nous partageons une ascendance commune avec le reste du vivant. Et c'est quelque chose que nous savons scientifiquement depuis Darwin, mais c'est quelque chose que nous n'éprouvons pas. C'est un de ces savoirs dont on ne fait pas l'expérience. Le grand enjeu, c'est d'arriver à penser en même temps cette ascendance commune, ce partage, ce destin commun et cette différence qui est prodigieuse et qui fait que, parce qu'ils ont un autre corps, ils vivent différemment, ils constituent une autre manière d'être vivant. Nous partageons avec les peuples animistes la thèse de l'ascendance commune. Les animistes, nous le savons que depuis un siècle et demi et Darwin, mais les animistes savent depuis toujours qu'ils sont parents avec les autres formes de vie. Mais la différence, c'est qu'ils le savent et ils l'activent dans leur pratique. Nous le savons, mais nous vivons autrement. Ça n'a pas d'implication dans les relations que nous tissons avec eux. La question devient, qu'est-ce que c'est partager la Terre quand on est au courant que ce sont des parents et des parents qui sont en même temps des aliens. Et ça pose des problèmes qui sont absolument prodigieux. Par exemple, pour moi, ça n'implique pas qu'il devient interdit de manger des animaux ou que ce soit un crime parce que ce ne sont pas des personnes. Par contre, ça pose la question de comment est-ce qu'on mange décemment des parents. Et ça, c'est une des énigmes que l'animisme a eu à résoudre. Les peuples animistes ont dû trouver des manières, des formes de réciprocité pour justifier de manger des parents. C'est ce genre de questions qui se réouvrent quand on fait l'épreuve vécue de l'ascendance commune.
Oui, ça aussi, c'est un côté vertigineux parce que ça oblige véritablement à... Enfin, ça remet énormément de choses en question.
Eh bien, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant.
Mais bien sûr.
Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit aussi sur nous, on n'éprouve pas le fait de cette ascendance commune. On le sait intellectuellement, mais on ne l'éprouve pas.
Ouais.
Et un des travaux qu'il essaye de mettre en place, c'est de nous faire éprouver cette ascendance commune. Parce qu'en effet, quand on sait que la vache, il y a des centaines de millions d'années, c'était elle et moi, on était pareil, et ben on ne la regarde plus de la même façon.
C'est vrai. Oui, je rebondis sur ce qu'il évoque. Effectivement, c'est comme un sens qu'on a perdu, un lien qu'on ne fait plus. Et c'est fou, effectivement, de penser que finalement les thèses darwinistes, quelque part, elles nous mettent en correspondance finalement avec les croyances de peuples animistes, ouais. Mais que c'est comme si ces découvertes-là, on les avait assimilées intellectuellement, mais que de façon sensitive, on ne les éprouve pas, quoi.
Non, c'est
le
clair.
Lien qu'on peut avoir avec
tous les autres vivants.
C'est
en
ça,
fait,
tous les autres vivants, avec tous, les vivants en général.
On vient, ouais, tous du même, ouais, ancêtre commun.
Je ne vais pas utiliser le terme de nature parce que du coup, ça, on est dans une forme de, effectivement, de séparation et c'est, voilà, on est en train d'évoquer.
C'est pour ça que Morisot, il utilise le terme vivant, ouais, en fait, au lieu d'utiliser le terme nature.
Ouais. Mmh. Ok, on va s'en tenir là.
Ah ouais, assez de vertige pour aujourd'hui.
Ouais, assez de vertige pour aujourd'hui.
Mais ce qui vient après est aussi vertigineux.
Eh ben, tant mieux, parce que ça fait toujours de bien de perdre son équilibre, parce que, surtout quand l'équilibre est précaire, et on sait que notre équilibre aujourd'hui, il est précaire, donc il faut en retrouver un qui soit véritablement, qui pose de nouvelles fondations, on va dire.
Je vais finir par une citation de Dalida.
Allez, vas-y.
Wow. De Dalida, qui disait « J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. »
Magnifique. Ça sera le mot de la fin.